Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. De nouveau ensemble pour la suite de notre lecture, La débâcle de Émile Zola. Lorsque Henriette rentra, elle s'efforça de sourire, malgré le coup qu'elle venait de recevoir en plein cœur. Est-ce qu'elle ne le sauverait pas? Est-ce qu'elle n'allait pas empêcher cette affreuse chose, leur éternelle séparation à tous les trois, qui étaient là réunis encore, dans leur ardent souhait de vie? De la journée, elle n'avait pas quitté cette chambre. Une vieille voisine s'était chargée obligeamment de ses commissions. Et elle revint reprendre sa place près du lit, sur une chaise. Mais cédant à son excitation fiévreuse, Maurice questionnait Jean, voulait savoir. Celui-ci ne disait pas tout, évitait de compter l'enragée colère qui montait contre la commune agonisante dans Paris délivré. On était déjà au mercredi. Depuis le dimanche soir, depuis deux grands jours, les habitants avaient vécu au fond de leur cave, suant la peur. Et le mercredi matin, lorsqu'ils avaient pu se hasarder, le spectacle des rues défoncées, les débris, le sang, les effroyables incendies surtout, venaient de les jeter à une exaspération vengeresse. Le châtiment allait être immense. On fouillait les maisons, on jetait au peloton des exécutions sommaires le flot suspect des hommes et des femmes qu'on ramassait. Dès 6 heures du soir ce jour-là, l'armée de Versailles était maîtresse de la moitié de Paris, du parc de Montsouris à la gare du Nord en passant par les grandes voies. Et les derniers membres de la commune, une vingtaine, avaient dû se réfugier boulevard Voltaire, à la mairie du 11e arrondissement. Un silence se fit. Maurice murmura, les yeux au loin sur la ville, par la fenêtre ouverte à l'air tiède de la nuit. « Enfin, ça continue. Paris brûle. » C'était vrai. Les flammes avaient reparu dès la tombée du jour, et de nouveau le ciel s'empourprait d'une lueur scélérate. Dans l'après-midi, lorsque la poudrière du Luxembourg avait sauté avec un fracas épouvantable, le bruit s'était répandu que le Panthéon venait de crouler au fond des catacombes. Toute la journée, d'ailleurs, les incendies de la veille avaient continué. Le palais du Conseil d'État et les Tuileries brûlaient. Le ministère des Finances fumait à gros tourbillons. 10 fois, il avait fallu fermer la fenêtre sous la menace d'une nuée de papillons noirs, des vols incessants de papier brûlé que la violence du feu emportait au ciel, d'où il retombait en pluie fine. Et Paris entier en fut couvert, et l'on en ramassa jusqu'en Normandie, à 20 lieues. Puis, maintenant, ce n'était pas seulement les quartiers de l'ouest et du sud qui flambaient, les maisons de la rue Royale, celles du carrefour de la Croix-Rouge et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Tout l'est de la ville semblait en flammes. L'immense brasier de l'hôtel de ville barrait l'horizon d'un bûcher géant. Et il y avait encore là, allumé comme des torches, le théâtre lyrique, la mairie du 4e arrondissement, plus de 30 maisons des rues voisines, sans compter le théâtre de la Porte Saint-Martin au nord, qui rougeoyait à l'écart, ainsi qu'une meule, au fond des champs ténébreux. Des vengeances particulières s'exerçaient, peut-être aussi des calculs criminels, s'acharnait-il à détruire certains dossiers. Il n'était même plus question de se défendre. d'arrêter par le feu les troupes victorieuses. Seule la démence soufflait. Le palais de justice, l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame, venait d'être sauvé au petit bonheur du hasard. Détruire pour détruire, ensevelir la vieille humanité pourrie sous les cendres d'un monde, dans l'espoir qu'une société nouvelle repousserait heureuse et candide en plein paradis terrestre des primitives légendes. Ah, la guerre, l'exécrable guerre, dit à demi-voix Henriette en face de cette cité de ruines, de souffrance et d'agonie. N'était-ce pas en effet l'acte dernier et fatal, la folie du sang qui avait germé sur les champs de défaite de Sedan et de Metz, l'épidémie de destruction née du siège de Paris, la crise suprême d'une nation en danger de mort au milieu des tueries et des écroulements. Mais Maurice, sans quitter des yeux les quartiers qui brûlaient là-bas, bégaya lentement avec peine. « Non, non, ne maudis pas la guerre. Elle est bonne. Elle fait son œuvre. » Jean l'interrompit d'un cri de haine et de remords. « Sacré bon Dieu, quand je te vois là, et quand c'est par ma faute, ne la défends plus, c'est une sale chose que la guerre. » Le blessé eut un geste vague. « Oh, moi, qu'est-ce que ça fait? Il y en a bien d'autres. C'est peut-être nécessaire, cette saignée. La guerre, c'est la vie qui ne peut pas être sans la mort. » Et les yeux de Maurice se fermèrent, dans la fatigue de l'effort que lui avaient coûté ces quelques mots. D'un signe, Henriette avait prié Jean de ne pas discuter. Toute une protestation la soulevait elle-même, sa colère contre la souffrance humaine malgré son calme de femme frêle et si brave, avec ses regards limpides où revivait l'âme héroïque du grand-père, le héros des légendes napoléoniennes. Deux jours se passèrent, le jeudi et le vendredi, au milieu des mêmes incendies et des mêmes massacres. Le fracas du canon ne cessait pas. Les batteries de Montmartre, dont l'armée de Versailles s'était emparée, canonnaient sans relâche celles que les fédérés avaient installées à Belleville et au Père-Lachaise. Et ces derniers tiraient au hasard sur Paris. Des obus étaient tombés rue de Richelieu et à la place Vendôme. Le 25 au soir, toute la rive gauche était entre les mains des troupes. Mais sur la rive droite, les barricades de la place du Château d'Eau et de la place de la Bastille tenaient toujours. Il y avait là deux véritables forteresses que défendait un feu terrible, incessant. Au crépuscule, dans la débandade des derniers membres de la commune, Delescluze avait pris sa canne, et il était venu d'un pas de promenade, tranquillement, jusqu'à la barricade qui fermait le boulevard Voltaire, pour y tomber foudroyé, en héros. Le lendemain, le 26 dès l'aube, le château d'eau et la Bastille furent emportés. Les communards n'occupèrent plus que la Villette, Belleville et Charonne, de moins en moins nombreux, réduits à la poignée de braves qui voulaient mourir. Et pendant deux jours, ils devaient résister encore et se battre furieusement. Le vendredi soir, comme Jean s'échappait de la place du Carrousel pour retourner rue des Orties, il assista, au bas de la rue de Richelieu, à une exécution sommaire dont il resta bouleversé. Depuis l'avant-veille, deux cours martiales fonctionnaient, la première au Luxembourg, la seconde au théâtre du Châtelet. Les condamnés de l'une étaient passés par les armes dans le jardin, tandis que l'on traînait ceux de l'autre jusqu'à la caserne Lobo, où des pelotons en permanence les fusillaient dans la cour intérieure presque à bout portant. Ce fut là surtout que la boucherie devint effroyable. Des hommes, des enfants, condamnés sur un indice, les mains noires de poudre, les pieds simplement chaussés de souliers d'ordonnance, des innocents, dénoncés à faux, victimes de vengeances particulières, hurlant des explications sans pouvoir se faire écouter, des troupeaux jetés pêle-mêle sous les canons des fusils, tant de misérables à la fois qu'il n'y avait pas des balles pour tous et qu'il fallait achever les blessés à coups de crosse. Le sang ruisselait, des tombereaux emportaient les cadavres du matin au soir. Et par la ville conquise au hasard des brusques affolements de rage vengeresse, d'autres exécutions se faisaient devant les barricades, contre les murs des rues désertes, sur les marches des monuments. C'était ainsi que Jean venait de voir des habitants du quartier amenant une femme et deux hommes au poste qui gardait le théâtre français. Les bourgeois se montraient plus féroces que les soldats. Les journaux qui avaient reparu poussaient à l'extermination. Toute une foule violente s'acharnait contre la femme surtout, une de ces pétroleuses dont la peur hantait les imaginations hallucinées qu'on accusait de rôder le soir, de se glisser le long des habitations riches pour lancer des bidons de pétrole enflammés dans les caves. On venait, criait-on, de surprendre celle-là, accroupie devant un soupirail de la rue Sainte-Anne. Et malgré ses protestations et ses sanglots, on la jeta, avec les deux hommes au fond d'une tranchée de barricade qu'on n'avait pas comblée encore, on les fusilla dans ce trou de terre noire, comme des loups pris au piège. Des promeneurs regardaient. Une dame s'était arrêtée avec son mari. Tandis qu'un mitron qui portait une tourte dans le voisinage sifflait un air de chasse.
Dans la vieille cité française existe une race de fers dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans soupir rime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
La débâcle Émile Zola, suite. Jean se hâtait de gagner la rue des Orties, le cœur glacé, quand il eut un brusque souvenir. N'était-ce pas Chouteau, l'ancien soldat de son escouade, qu'il venait de voir, sous l'honnête blouse blanche d'un ouvrier, assistant à l'exécution avec des gestes approbateurs? Et il savait le rôle du bandit, traître, voleur et assassin. Un instant, il fut sur le point de retourner là-bas, de le dénoncer, de le faire fusiller sur les corps des trois autres. Ah, cette tristesse! Les plus coupables échappant au châtiment, promenant leur impunité au soleil, tandis que des innocents pourrissent dans la terre. Henriette, au bruit des pas qui montaient, était sortie sur le palier. « Soyez prudent, il est aujourd'hui dans un état de surexcitation extraordinaire. Le major est revenu, il m'a désespéré. » En effet, Bouroche avait hoché la tête en ne pouvant rien promettre encore. Peut-être, tout de même, la jeunesse du blessé triompherait-elle des accidents qu'il redoutait. « Ah, c'est toi ?» dit fiévreusement Maurice à Jean dès qu'il l'aperçut. « Je t'attendais. Qu'est-ce qu'il se passe? Où en est-on ?» Et le dos contre son oreiller, en face de la fenêtre qu'il avait forcé sa sœur à ouvrir, montrant la ville redevenue noire qu'un nouveau reflet de fournaise éclairait. « Hein? Ça recommence, hein? Paris brûle tout entier cette fois !» Dès le coucher du soleil, l'incendie du grenier d'abondance avait enflammé les quartiers lointains, en haut de la coulée de la Seine. Aux Tuileries, au Conseil d'État, les plafonds devaient crouler, activant le brasier des poutres qui se consumaient, car des foyers partiels s'étaient rallumés, des flammèches et des étincelles montaient par moments. Beaucoup des maisons qu'on croyait éteintes se remettaient ainsi à flamber. Depuis 3 jours, l'ombre ne pouvait se faire, sans que la ville parût reprendre feu, comme si les ténèbres eussent soufflé sur les tisons rouges encore, les ravivant, les semant aux 4 coins de l'horizon. Ah, cette ville d'enfer, qui rougeoyait dès le crépuscule, allumée pour toute une semaine, éclairant de ses torches monstrueuses les nuits de la semaine sanglante. Et cette nuit-là, quand les docks de la Villette brûlèrent, la clarté fut si vive sur la cité immense qu'on put la croire réellement incendiée par tous les bouts, cette fois envahie et noyée sous les flammes. Dans le ciel saignant, les quartiers rouges à l'infini roulaient le flot de leurs toitures de braise. « C'est la fin !» répéta Maurice. « Paris brûle !» Il s'excitait avec ces mots redits à 20 reprises, dans un besoin fébrile de parler avec la lourde somnolence qui l'avait tenu presque muet pendant 3 jours. Mais un bruit de larmes étouffées lui fit tourner la tête. « Comment, petite sœur, c'est toi, si brave? Tu pleures parce que je vais mourir ?» Elle l'interrompit en se récriant « Mais tu ne mourras pas !»« Si, si, ça vaut mieux, il le faut. »« Ah va, ce n'est pas grand-chose de bon qui s'en irait avec moi. »« Avant la guerre, je t'ai fait tant de peine. »« J'ai coûté si cher à ton cœur et à ta bourse. »« Toutes ces sottises, toutes ces folies que j'ai commises et qui auraient mal fini, qui sait, la prison, le ruisseau. » De nouveau, elle lui coupait la parole violemment. « Tais-toi, tais-toi, tu as tout racheté. » Il se tut, songea un instant. « Quand je serai mort, peut-être, oui. »« Ah, mon vieux Jean, tu nous as tout de même rendu à tous un fier service quand tu m'as allongé ton coup de baïonnette. » Mais lui aussi, les yeux gros de larmes, protestait. « Ne dis pas ça. Tu veux donc que je me casse la tête contre un mur ?» Ardemment, Maurice continua. « Rappelle-toi donc ce que tu m'as dit. le lendemain de Sedan. Quand tu prétendais que ce n'était pas mauvais, parfois, de recevoir une bonne gifle. Tu ajoutais que, lorsqu'on avait de la pourriture quelque part, un membre gâté, ça valait mieux de le voir par terre abattu d'un coup de hache que d'en crever comme d'un choléra. Mais j'ai songé souvent à cette parole. Depuis que je me suis retrouvé seul, enfermé, dans ce Paris de démence et de misère. Eh bien, c'est moi qui suis le membre gâté que tu as abattu. Son exaltation grandissait. Il n'écoutait même plus les supplications d'Henriette et de Jean, terrifiés. Et il continuait dans une fièvre chaude, abondante en symboles, en images éclatantes. C'était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée, la paysanne, celle qui était restée le plus près de la terre, qui supprimait la partie folle, exaspérée, gâtée par l'Empire, détraquée de rêverie et de jouissance. Et il lui avait fallu aussi couper dans sa chair même, avec un arrachement de tout l'être, sans trop savoir ce qu'elle faisait. Mais le bain de sang était nécessaire. Et de sang français, l'abominable holocauste, le sacrifice vivant au milieu du feu purificateur. Désormais, le calvaire était monté jusqu'à la plus terrifiante des agonies. La nation crucifiée expiait ses fautes et allait renaître. Mon vieux Jean, tu es le simple et le solide. Va, va, prends la pioche. Prends la truelle et retourne le champ et rebâtis la maison. Moi, tu as bien fait de m'abattre, puisque j'étais l'ulcère collé à tes os. Il délira encore, il voulut se lever, s'accouder à la fenêtre. Paris brûle, rien ne restera. Ah, cette flamme qui emporte tout, qui guérit tout, je l'ai voulu, oui, elle fait la bonne besogne. Laissez-moi descendre, laissez-moi achever l'œuvre d'humanité et de liberté. Jean eut toutes les peines du monde à le remettre au lit, tandis qu'Henriette, en larmes, lui parlait de leur enfance, le suppliait de se calmer au nom de leur adoration. Et sur Paris immense, le reflet de braise avait encore grandi. La mer de flammes semblait gagner les lointains ténébreux de l'horizon, le ciel était comme la voûte d'un four géant chauffé au rouge clair. Et dans cette clarté fauve des incendies, les grosses fumées du ministère des Finances qui brûlaient obstinément depuis l'avant-veille, sans une flamme, passaient toujours en une sombre et lente nuée de deuil. Le lendemain, le samedi, une amélioration brusque se déclara dans l'état de Maurice. Il était beaucoup plus calme. La fièvre avait diminué, et ce fut une grande joie pour Jean lorsqu'il trouva Henriette souriante, reprenant le rêve de leur intimité à trois dans un avenir de bonheur encore possible qu'elle ne voulait pas préciser. Est-ce que le destin allait faire grâce ? Elle passait les nuits. Elle ne bougeait pas de cette chambre, où sa douceur active de Cendrillon, ses soins légers et silencieux, mettaient comme une caresse continue. Et ce soir-là, Jean s'oublia près de ses amis avec un plaisir étonné et tremblant. Dans la journée, les troupes avaient pris Belleville et les Buttes-Chaumont. Il n'y avait plus que le cimetière du Père-Lachaise, transformé en un camp retranché qui résista. Tout lui semblait fini. Il affirmait même qu'on ne fusillait plus personne. Il parla simplement des troupeaux de prisonniers qu'on dirigeait sur Versailles. Le matin, le long du quai, il en avait rencontré un, des hommes en blouse, en paletot, en manches de chemise, des femmes de tout âge, les unes avec des masques creusés de furie, les autres dans la fleur de leur jeunesse, des enfants âgés de 15 ans à peine, tout un flot roulant de misère et de révolte que les soldats poussaient sous le clair soleil, et que les bourgeois de Versailles, disait-on, accueillaient avec des huées à coups de canne et d'ombrelles. mais le dimanche, Jean fut épouvanté. C'était le dernier jour de l'exécrable semaine. Dès le triomphal lever du soleil par cette limpide et chaude matinée de jour de fête, il sentit passer le frisson de l'agonie suprême. On venait d'apprendre seulement les massacres répétés des otages, l'archevêque, le curé de la Madeleine et d'autres fusillés le mercredi à la Roquette. Les dominicains d'Arcueil tirés à la course comme des lièvres le jeudi, des prêtres encore et des gendarmes au nombre de 47 foudroyés à bout portant au secteur de la rue Axo le vendredi. Et une fureur de représailles s'était rallumée. Les troupes exécutaient en masse les derniers prisonniers qu'elles faisaient. Pendant tout ce beau dimanche, les feux de peloton ne cessèrent pas dans la cour de la caserne Lobo, plein de râles, de sang et de fumée. À la Roquette, 227 misérables, ramassés au hasard du coup de filet, furent mitraillés en tas, hachés par les balles. Au Père-Lachaise, bombardé depuis 4 jours, emporté enfin tombe par tombe, on en jeta 148 contre un mur dont le plâtre ruissela de grandes larmes rouges, et 3 d'entre eux, blessés, s'étant échappés, on les reprit, on les acheva. Combien de braves gens pour un gredin, parmi les 12 000 malheureux à qui la commune avait coûté la vie. L'ordre de cesser les exécutions était, disait-on, venu de Versailles. Mais l'on tuait quand même. Thiers devait rester le légendaire assassin de Paris dans sa gloire pure de libérateur du territoire, tandis que le maréchal de MacMahon, le vaincu de Fretschwiller, dont une proclamation couvrait les murs annonçant la victoire, n'était plus que le vainqueur du Père Lachaise. Et Paris, ensoleillé, endimanché, paraissait en fête. Une foule énorme encombrait les rues reconquises. Des promeneurs allaient d'un air de flânerie heureuse voir les décombres fumants des incendies. Des mères tenant à la main des enfants rieurs s'arrêtaient et écoutaient un instant avec intérêt les fusillades assourdies de la caserne Lobo. Le dimanche soir, au déclin du jour, lorsque Jean monta le sombre escalier de la maison rue des Orties, un affreux pressentiment lui serrait le cœur. Il entra et tout de suite il vit l'inévitable fin. Maurice mort sur le petit lit, étouffé par l'hémorragie que Bouroche redoutait. La dieu rouge du soleil glissait par la fenêtre ouverte. 2 bougies brûlaient déjà sur la table, au chevet du lit. Et Henriette, à genoux dans ses vêtements de veuve qu'elle n'avait pas quittés, pleurait en silence. Voilà, nous avons donc terminé ce court extrait du roman de Émile Zola, La débâcle, et nous retrouverons demain un extrait d'une autre œuvre autour de la Commune. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.